Alors, le ridicule, le soupçon, l'incrédulité, la calomnie. Voici la réponse globale du français moderne face au christianisme. Si vous êtes disciple de Jésus aujourd'hui, si vous avez foi en Christ, si vous croyez en la résurrection des morts, et si vous prenez au sérieux ce que dit la Bible, vous faites partie d'une minorité qui est au mieux, ici en France, largement ignorée, qui est considérée comme étant non pertinent à tous égards. Au pire, vous êtes considéré comme étant complètement coupé de la réalité et menaçant aux valeurs des Lumières et du sécularisme moderne. Pour d'autres chrétiens du monde, les enjeux sont encore plus élevés. Alors la France, en a-t-elle fini avec la foi chrétienne après 2000 ans d'influence? Le christianisme en France est-il un échec? Est-ce que vous faites partie d'une église complètement morte et d'une religion qui n'est plus valable? Est-ce que vous souffrez le ridicule en vain? Est-ce qu'il faut admettre la défaite, baisser les épaules et accepter que le monde est gagné contre Dieu? J'espère que personne ici ne se pose pas trop sérieusement ces questions. Mais en même temps, c'est vrai qu'il arrive d'être découragé par cette impression de défaite, par l'incrédulité des gens. Ça arrive d'être découragé par des actualités, comme ce qui s'est passé ce week-end. Mais ce soir, j'aimerais vous encourager par ce que Dieu lui-même nous dit, que Christ est victorieux. Christ est victorieux dans sa souffrance qui mène au salut pour nous qui croyons. Christ est victorieux dans sa résurrection d'entre les morts. Christ est victorieux puisqu'il règne à la droite du Père. Il est victorieux contre nos péchés. Il est victorieux contre le mal. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, nous rappelle que la victoire de Jésus aujourd'hui est pour toujours. Nous vivons aujourd'hui dans cette victoire. Nous sommes un témoignage de ce que Jésus a fait à la croix. On va lire donc 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la sueur de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui monté au ciel est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous dis que ta parole est vivante et efficace. Tu nous dis que la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté. Ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyée. Et donc je prie afin que tu nous enseignes ce soir, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que je viens de lire? Ce texte en 1 Pierre, qu'est-ce que je viens de lire? Ce texte suscite plus d'interrogations qu'il n'apporte de réponses. En fait, plusieurs commentateurs sont d'accord sur le fait que ce passage est le plus difficile de toute la Bible. Il est difficile au niveau du grec, il est difficile à traduire, il est difficile théologiquement, il est difficile, point. Martin Luther a dit face à ce texte est le plus obscur dans le Nouveau Testament, et je ne sais pas avec certitude ce que Pierre était en train de dire. Je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'expliquer. Donc ce n'est pas très encourageant ce que disent les commentateurs. Ce texte soulève les questions suivantes. Où est allé Jésus? Quand est-il allé? À qui a-t-il parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Et honnêtement, mes réponses à ces questions ne garantiront pas nécessairement votre satisfaction ce soir. Mais je dirais qu'il est facile d'être distrait par toutes les difficultés de ce passage en oubliant que toute écriture est inspirée de Dieu, que sa parole est vivante et efficace, et que le Saint-Esprit nous guide dans notre étude, que Dieu a des choses à nous dire ce soir. Et donc, avec beaucoup d'humilité, nous pouvons lire ce texte en essayant de trouver l'idée primordiale de ces versets. Si on le prend dans son contexte, je pense que l'idée centrale de ces versets, c'est la victoire de Jésus-Christ. C'est la victoire de Jésus-Christ, tout simplement. Christ est victorieux. Il a une victoire absolue, une victoire incontestable, incontournable. C'est une victoire durable. Alors, l'attitude des Grecs et des Romains face au christianisme du 1er siècle n'est pas très différente de l'attitude de nos prochains aujourd'hui. Mais Pierre écrit ces mots afin d'encourager les chrétiens de tout siècle. On peut s'appuyer sur la victoire de Jésus-Christ. Alors, regardez les versets 18 à 19 qui résument bien la nature de l'Évangile. Le sacrifice de Jésus est absolu. Il est mort une seule fois pour les péchés. Une seule fois pour les péchés. Considérez la beauté de cette phrase. Dans un contexte de souffrance, dans un contexte de ridicule, ce qui est central, c'est la souffrance de Christ. Pas la nôtre, mais celle du Christ. Dans un contexte de souffrance et de ridicule, Pierre ne nous parle pas de la manière dont soulager notre souffrance. Il nous parle de Jésus qui a souffert la mort une seule fois pour les péchés. Cette simple phrase, une seule fois, est très riche théologiquement. Il est lourd en sens, de sens. C'est un affront direct à notre légalisme. C'est un affront à nos sacrifices pour Dieu. Cette simple phrase, une seule fois, sert à nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Cette phrase nous rappelle que nous vivons dans un monde de répétition, où rien n'est fait une seule fois. Rien n'est fait une seule fois. Chaque jour, c'est pareil. Chaque semaine, c'est pareil. Métro, boulot, bistrot, dodo, mégo, impôt, disco, etc. Ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Imaginez d'être prêtre en Israël. Vous avez le privilège de louer le Seigneur chaque jour, par des sacrifices. Mais en sachant que le sacrifice lui-même ne complète pas le salut. Donc c'est gratifiant, mais pas complètement gratifiant. Gratifiant parce que vous avez l'occasion de louer le Seigneur chaque jour, mais pas gratifiant parce qu'il faut le faire tout le temps. C'est jamais fini. Le salut n'est jamais fini, c'est jamais accompli. C'est comme préparer les repas pour la famille tous les jours. Chez nous, on dit à table et les enfants surgissent comme un nuage de sauterelles. Ils dévorent le repas comme une motte de loup vorace. Je n'exagère pas sur ça, mais ça nous donne un bon sentiment de voir que nos enfants mangent bien. Ils grandissent comme il faut, n'est-ce pas? Mais ce n'est jamais fini. En tant que parents, j'ai découvert qu'il faut leur donner à manger en fait tous les jours, en fait 3 ou 4 ou 5 fois par jour. Et nos œuvres pour Dieu sont exactement comme ça. Les prêtres ont répété les sacrifices chaque jour. Mais ici, Pierre nous rappelle que Jésus, en fait, l'a fait une seule fois. Une seule fois pour les péchés. C'est fini. C'est une victoire absolue. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exégèse de ce texte n'est pas très facile et donc on ne sait pas trop exactement comment comprendre l'idée de la chair et l'esprit à la fin du verset 18, ni la prédication aux esprits en prison. Ces phrases toutes seules ne sont pas très claires, mais dans leur contexte, nous comprenons que Jésus est vivant avec un corps spirituel. si on comprend ces versets dans leur contexte, c'est évident que Jésus est vivant avec un corps spirituel. Nous comprenons aussi que cette résurrection est si importante, la croix est si importante que c'était annoncé aux esprits en prison, c'est-à-dire des personnes mortes dans le passé. Et je dirais des personnes et pas des anges parce que la Bible nous dit ailleurs que la prédication, la repentance, c'est pour les hommes, c'est pas pour les anges déchus. Donc j'ai la tendance de dire que c'est des personnes qui étaient mortes dans le passé. Mais je veux être clair aussi que le texte n'indique pas que ces esprits ont une deuxième chance à la repentance. Le texte ne nous dit pas comment Jésus a prêché à ces esprits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le fait que la victoire de Jésus était si importante, qu'elle a été annoncée dans les lieux spirituels. Sa victoire, sa justice, son jugement ont été annoncés. Alors, par son sacrifice juste pour injuste, Jésus nous a amenés à Dieu. C'est ce qu'on lit dans le verset 18. Il a fait ce que nous n'avions pas pu faire. Jésus nous amène à Dieu. Il nous amène devant le Créateur du monde, dans toute sa gloire. Et parce que nous sommes avec Jésus, on est acceptés aussi. Le Père regarde la justice de Jésus en nous, les injustes, et il nous accueille sur les mérites de Christ. Peut-être que vous avez reçu des privilèges ou des accès au bien parce que vous connaissiez les bonnes personnes. Peut-être que ça arrivait pour vous. Moi, une fois, et c'est vraiment incroyable, mais j'ai reçu une visite guidée gratuite d'un musée de grille-pains parce que mon frère connaissait le directeur du musée. Pas mal, n'est-ce pas? Le musée de grille-pains. C'était la collection la plus grande de grille-pains aux États-Unis. D'accord, peu importe, n'est-ce pas? C'est pas très, très intéressant. Mais ça illustre bien le fait que si on connaît quelqu'un, si on est avec les bonnes personnes, c'est à notre avantage, n'est-ce pas? Je suis invité parce que mon pote est invité. Je rencontre le président de la République parce que mon pote est son ami, etc. Vous voyez comment ça marche? Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu en disant, c'est ok, je suis avec lui. C'est ok, je connais Jésus. Dieu nous accepte sur la base de la victoire absolue de Jésus-Christ. Il n'y a rien dans le monde physique ni dans le monde spirituel qui peut diminuer ce que Jésus a accompli à la croix. Mais la victoire de Jésus est aussi incontournable. Pierre recule au début de la Bible, dans les versets 20 à 21, pour nous rappeler Noé qui a prêché la repentance à sa génération. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont ridiculisé Noé en ignorant Dieu, n'est-ce pas? À l'époque de Pierre, les apôtres ont prêché la repentance et ils ont prêché l'évangile de la grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup les ont ignorés. L'Église a été persécutée. Aujourd'hui, l'Église tient ferme au message de la croix. Notre message est vu comme non pertinent, comme démodé. Noé a construit son arche et on s'est moqué de lui, n'est-ce pas? Quel idiot de croire en Dieu, quel idiot de croire que Dieu inondera la terre. Quelle arrogance de présumer que nous devons nous repentir devant Dieu. Quelle stupidité de croire en Dieu, de croire en un créateur qui n'est qu'une légende de vieille bonne femme. Mais l'histoire nous dit que Noé avait raison, n'est-ce pas? L'histoire nous dit que Jésus avait raison. En fait, la victoire de Jésus est incontournable. C'est incontournable. Et nous, les chrétiens, nous avons un appel et une responsabilité de vivre dans cette victoire de Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre une attitude d'indifférence face à Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre un cœur endurci face à son appel à la repentance. Imaginez que votre maison est instable, qu'elle vacille lorsqu'il y a beaucoup de vent. Après une évaluation, des spécialistes vous disent qu'il faut abandonner la maison. C'est dangereux. Il faut abandonner la maison. Peut-être vous décidez, après ça, de rester là parce que c'est pas très grave, en votre avis. Ça ne bouge qu'un petit peu. Le plafond craque, les murs les arbres, mais ils sont toujours attachés les uns aux autres. Donc c'est pas très grave. Quel est le problème? Et vous ignorez l'avertissement. Ou par contre, vous dites peut-être, d'accord, je dois agir et répondre au problème. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous passez chez Castorama ou le roi Merlin, vous achetez du plâtre et vous colmatez des fissures. Vous avez répondu, n'est-ce pas? Mais c'est une réponse superficielle. Votre action ne sert à rien, finalement. Et la maison va s'effondrer quand même. Mais il reste une troisième option. Vous pouvez écouter l'avis des spécialistes et vous casser de cette maison le plus vite possible. Voilà la bonne réaction, n'est-ce pas? Il faut remédier à la situation correctement. De même, Dieu est patient. Il est patient comme avec les gens rebelles au jour de Noé. Mais il attend la bonne réponse quand même. Christ est victorieux sur le péché, sur la mort, sur le diable. C'est une victoire incontournable qui demande une réponse de notre part. La seule bonne solution est la repentance, c'est la foi, c'est le baptême pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Les eaux qui ont couvert la terre représentent le jugement de Dieu contre le péché. Mais il représente aussi le salut en amenant l'arche en sécurité. Et de la même manière, le baptême représente la mort et la résurrection. L'eau du baptême représente la vie à travers la mort. Notre baptême chrétien représente comme signe la victoire de Jésus pour notre salut. C'est ça l'idée de Pierre dans les versets 20 et 21. Alors, la victoire de Jésus se manifeste dans son règne à la droite de Dieu, sur les anges, sur les pouvoirs, sur les puissances. Il règne sur les autorités civiles, il règne sur les autorités spirituelles, il règne sur tout le reste. Le Christ victorieux entre dans le ciel comme un roi qui entre dans la ville capitale de son pays après avoir vaincu un ennemi oppresseur, un ennemi qui a oppressé son peuple. Et ceux qui suivent ce roi dans son cortège sont tous maintenant soumis à lui. Alors, pour certains, c'est une soumission humiliante, douloureuse, parce que il se compte parmi l'ennemi vaincu. Mais pour d'autres, c'est une soumission volontaire et reconnaissante et heureuse, parce qu'ils se comptent parmi l'armée du roi. Ils sont des citoyens de son pays. Ils sont des personnes qui s'humilient joyeusement face à leur bon roi. C'est l'image que, en fait, l'apôtre Paul emploie aussi en Éphésiens chapitre 4, où Jésus est présenté comme un vainqueur qui est monté dans les hauteurs, qui a amené des captifs et qui a fait des dons aux hommes. La victoire de Christ est durable. Il a gagné. Il a gagné. Et même si les puissants du mal rougissent et secouent leurs chaînes, même si les puissances du mal sèment du peur et de la violence comme dans des attaques à Paris, ce qu'on a vu ce week-end, la guerre, c'est fini. Jésus est victorieux. C'est Jésus qui gagne. Le monde maintenant, on attend le jugement final. Je voudrais vous rappeler que la victoire ne dépend pas de nos observations subjectives de ce qui se passe dans le monde. La victoire ne dépend pas du nombre de chrétiens ici à Lyon. La victoire n'est pas basée sur la notoriété de l'Église dans les médias en ce moment, ou sur la taille de notre assemblée, ou sur notre capacité de répondre ou à répondre à tous les arguments des sceptiques. Bien sûr, ces choses sont importantes, on est d'accord. Mais finalement, la victoire ne dépend pas de nous, mais de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a déclaré selon sa souveraineté. Le monde nous dit que l'époque de l'Église est finie. Le monde nous dit que petit à petit, l'esprit humain sera ouvert à la lumière de la libre pensée, dépourvu de la superstition et guidé par la raison, ou des choses comme ça. Le monde nous dit que le péché n'est plus de péché. Le monde nous dit que Dieu va mourir et l'homme va régner à sa place. Le ridicule, n'est-ce pas? Le soupçon, l'incrédulité, la calomnie. Ces réponses globales des gens face à votre foi vont continuer comme avant, comme à l'époque de Noé, comme à l'époque de Pierre. Mais je vous encourage, notre foi ne dépend pas de ce que disent les gens ou de ce que disent les sceptiques. En mourant à la croix et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus a gagné une grande victoire qui nous soutiendra à jamais. Je vous invite à la prière. Seigneur, la victoire que tu as obtenue sur l'ennemi de la mort, l'ennemi du péché, cette victoire nous encourage, Seigneur. Ça nous encourage dans la foi. Ça nous donne courage dans notre vie quotidienne. Et je te prie, Seigneur, afin que nous ne désespérions pas face aux troubles de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ta victoire incontournable, ta victoire absolue. Et encore une fois, Seigneur, nous te remercions pour cette croix, pour ce plan rédempteur que tu as opéré dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.